Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la vie des êtres vivants, qu'elles soient animales ou végétales, est incroyable de diversité. En effet, dans la biosphère actuelle, on recense environ 1,5 million d'espèces. Chose extraordinaire, tous aussi différents que nous sommes, pas un seul atome n'est propre aux êtres vivants. Comme l'écrit si bien notre invité d'aujourd'hui, tous les êtres humains sont faits de la même matière que les cailloux et le soleil, tous les êtres vivants sont construits avec les mêmes atomes que tout le reste de l'univers, simplement les proportions sont différentes. C'est cette incroyable histoire de l'évolution, de la diversité des espèces que nous allons vous raconter, de la première cellule, Luca, aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, nous allons brosser un panorama de l'immense diversité de l'évolution avec Claude Combe, qui a publié un passionnant livre de vulgarisation scientifique, Darwin, dessine-moi les hommes, aux éditions du Pommier en 2006. Claude Combe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur à l'Université de Perpignan, spécialiste du parasitisme, membre de l'Académie des sciences. Vous aviez bâti donc votre ouvrage Darwin sous forme de conversation entre une petite fille et un savant, un certain Claude. Et ce procédé rappelle le livre de Justin Garner qui a écrit Le Monde de Sophie et qui correspondait à une approche de la philosophie. Alors je suppose que vous vous êtes inspiré en quelque sorte de cet ouvrage pour bâtir le vôtre.
Oui, j'ai été fortement influencé par le livre de Martin Gardner qui est pour moi une merveille. J'ai toujours aimé la philosophie, je dirais que je l'ai redécouverte avec un plaisir immense en lisant ce livre. Et les aventures de Sophie, et puis Sophie, philosophie, ça va ensemble.
Alors là, ce sont les aventures de Yin.
Voilà, je ne pouvais pas dire Sophie de nouveau, ça n'aurait pas fait sérieux. Alors j'ai toujours été assez fasciné par la civilisation chinoise, je connais bien la Chine, j'y suis allé, même à l'époque de Mao, j'ai déjà fréquenté la Chine. Alors le prénom Yin est un prénom qui existe en Chine, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai été influencé, j'ai gardé ce prénom, en plus il était court, donc ça passait bien je crois.
Donc, Yin, à quel âge? Puisque, justement, vous m'expliquiez en préparant cette émission qu'il y avait plusieurs commentaires sur l'âge de cette petite fille, ou de cette fille, ou de cette jeune fille.
Voilà, pour moi, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille parce qu'il faut quand même qu'elle pose des questions pertinentes. Je crois qu'une petite fille poserait des questions un petit peu trop naïves. J'ai essayé de faire en sorte que le livre soit accessible pour des personnes qui ne soient pas biologistes. Et je dirais que Yin est une jeune fille qui personnifie, qui symbolise la personne non biologiste, mais curieuse. Curieuse, c'est-à-dire qui va poser beaucoup de questions.
Donc ce n'est pas votre femme ou une petite fille de 4 ans, comme on a pu le lire dans certains commentaires.
Alors ça serait plutôt ma fille qui a actuellement 11 ans et demi, mais ça serait ma fille dans quelques années, j'espère. Voilà, j'espère qu'elle posera ses questions.
Alors, si vous le voulez bien, je vais me baser en partie sur les questions de cette fille qui pose des questions, ma foi, que moi-même, je pourrais me poser et auxquelles je n'avais pas de réponse. Alors, merci d'y avoir donné ces explications. Et on va commencer par le commencement. La première cellule qui est apparue sur Terre et qui porte le nom de Luca, c'est ça ?
Oui, on l'appelle Lucas, ça c'est dérivé simplement du nom qu'on lui donne en anglais, et qui veut dire le dernier ancêtre commun à toutes les autres cellules. Bon, il y a peut-être eu plusieurs Lucas, et nous sommes les descendants de l'un de ces Lucas, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des essais de la vie à ce moment-là, ça se passait il y a 3 milliards ou 4 milliards d'années.
4 milliards d'années.
Oui, près de 4 milliards d'années, c'est-à-dire en fait très peu de temps après la formation de la Terre. Après la formation du système solaire. Ce qui est remarquable, c'est que la vie est apparue très tôt. Alors, il faut se dire que, à un certain moment, il n'y avait forcément que de la matière inerte sur la Terre. Et puis, un beau jour, il y a eu des cellules. Parce qu'ensuite, toute la vie, toute l'évolution de la vie est bâtie sur ce module cellulaire, la cellule. Donc, ce qui est peut-être le plus important dans l'histoire de la vie, c'est comment on est passé de la matière inerte à la première cellule. Et alors, malheureusement, là, il faut bien le dire, comme on n'a pas de fossiles, on a ce qu'on appelle des fois des fossiles chimiques, mais comme on n'a pas de véritables fossiles, c'est très difficile de reconstituer cette partie de l'évolution qui va de la matière inerte à la première cellule. C'est un petit peu la boîte noire de l'évolution, il faut l'avouer.
Qu'est-ce que vous appelez fossiles chimiques?
Alors, les fossiles chimiques, c'est par exemple le fait que lorsqu'on trouve du fer qui est oxydé, ben, ça veut dire qu'il y avait de l'oxygène. Et s'il y avait de l'oxygène, c'est-à-dire qu'il y avait probablement déjà des êtres vivants. Parce qu'au début de la Terre, on a plusieurs indices qui laissent penser que il n'y avait pas d'oxygène.
C'est justement la question que j'allais vous poser.
Voilà, ce sont en fait des êtres vivants qu'on appelle aujourd'hui les algues bleues et qui étaient déjà présentes à cette époque-là. Des algues bleues qui ont été les premières cellules, en fait. Lucas était probablement une algue bleue. Et il a commencé à fabriquer de l'oxygène comme les végétaux en fabriquent aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'avec les millions et les millions d'années, l'atmosphère terrestre s'est enrichie en oxygène.
Donc pas d'oxygène au début, et c'est grâce à la photosynthèse que l'oxygène est apparu.
On peut presque dire l'invention de la photosynthèse, mais invention entre guillemets bien sûr, a été une phase capitale, parce que toute la suite de l'évolution de la vie a tenu compte de cet enrichissement de l'atmosphère en oxygène. Et s'il n'y avait pas aujourd'hui cet oxygène, nous ne pourrions pas avoir les activités que nous avons, c'est-à-dire que notre métabolisme ne serait pas ce qu'il est. Et Lucas était donc probablement une de ces cellules qui ont inventé, entre guillemets toujours, la fonction chlorophyllienne.
Alors nous parlons de photosynthèse, de fonction chlorophyllienne, ça veut dire que les végétaux font partie des premiers êtres vivants complexes, entre guillemets, à apparaître sur Terre.
Oui, on peut dire que la première cellule, ou l'une des premières cellules qui a apparu et dont nous descendons d'une certaine manière, au départ, elle était capable de photosynthèse, c'était entre guillemets toujours un végétal.
Comment ces organismes unicellulaires, hein, à la base,
voilà,
une seule cellule,
unicellulaires.
Comment ces cellules vont avoir l'idée de se diviser?
Bon, en réalité, il faut bien savoir que pendant la plus grande partie de l'évolution, les organismes vivants ont été unicellulaires. Ça a duré au moins 2 milliards d'années, peut-être un peu plus. Ce n'est que dans le dernier milliard d'années, c'est-à-dire plus proche de nous, que les organismes, enfin certains organismes, parce que les unicellulaires existent toujours, bien sûr, mais il y a certains unicellulaires qui ont choisi, et je mets encore des guillemets, j'en mettrai souvent, de vivre en communauté. C'est-à-dire que les cellules se divisaient, ça c'était une propriété de la vie aussi qui a été acquise et qui est capitale, elles se divisaient et au lieu de se séparer après la division, des cellules restaient côte à côte. Alors peut-être au début ça formait simplement un massif cellulaire relativement homogène, c'est-à-dire que toutes les cellules étaient les mêmes. Et puis ce qui est très important, c'est que cette pluricellularité a permis à un certain moment une division du travail. Nous sommes des pluricellulaires, nous sommes formés de peut-être 100 000 milliards de cellules, ce qui est extraordinaire. Toutes ces cellules ont d'ailleurs les mêmes informations génétiques, nous le redirons peut-être, mais surtout, elles sont capables de faire des choses différentes. Nous avons des cellules nerveuses, des cellules musculaires, des cellules sanguines, et ces cellules, dont elles pratiquent une division du travail. Donc on a eu l'étape initiale de la cellule, qui est capitale, puis l'étape du pluricellulaire, qui est également capitale, et le pluricellulaire a permis la division du travail. Et en permettant qu'existe un jour la cellule nerveuse, c'était le chemin vers la conscience.
Et la pluricellularité, c'est la conséquence d'une erreur, entre guillemets, parce que dans votre livre, vous parlez de fautes, d'erreurs qui ont amené à chaque fois à l'évolution de l'espèce.
Alors, l'évolution est faite certainement de beaucoup de ce qu'on appelle des essais et des erreurs. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées, et là, je mets encore des guillemets, et puis un certain nombre qui ont survécu et d'autres qui ont disparu. Dans le cas de la pluricellularité, on peut penser que dans le monde du début, eh bien, les pluricellulaires ont eu l'avantage d'être plus gros et par conséquent moins victimes de prédateurs parce que les cellules devaient se manger entre elles. Et il y avait les grosses cellules qui mangeaient les petites. Et alors, si des petites se sont agglomérées, enfin, sont restées agglomérées les unes aux autres, elles constituaient une proie plus volumineuse, donc plus difficile peut-être à attraper. C'est une manière, l'union fait la force.
L'union fait la force. Vous citez François Jacob qui dit que l'évolution bricole.
Oui. Alors, ça, c'est quelque chose dont il faut bien avoir conscience. Lorsque je cite l'exemple, par exemple, d'un constructeur de voitures. Un constructeur de voitures, lorsqu'il fait un nouveau modèle, il a le choix entre, disons, continuer sur le modèle précédent, c'est-à-dire apporter quelques petites améliorations, ou bien, pourquoi pas, il a le choix, la possibilité de repartir de zéro, dire « je vais réinventer la voiture ». Alors, l'évolution, elle ne peut que utiliser ce qui existe déjà. C'est-à-dire que lorsque l'homme apparaît, eh bien, il ne peut être qu'un primate. C'est-à-dire qu'il y a des primates et l'évolution va modifier ces primates. Nous sommes différents de nos ancêtres. Mais c'est ce que Jacob appelle du bricolage.
On va poursuivre dans votre ouvrage ce que vous parlez beaucoup de l'ADN, bien sûr, qui a son rôle.
Oui, on ne peut pas parler d'évolution
sans parler d'ADN. Et justement, vous avez une manière très simple d'expliquer les choses. Vous parlez l'alphabet et de parler ADN, qui est plus simple que de parler français.
Oui. Oui, et je démontre à Yin, la jeune fille avec laquelle je parle, je lui démontre qu'effectivement, le langage de l'ADN, qui fait peur des fois un petit peu aux personnes qui ne sont pas spécialistes, parce que le nom ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique, ils sont dit, oh là là, ça doit être très difficile, moi je ne suis pas chimiste, je ne vais pas comprendre. En fait, ce qu'on appelle le langage de l'ADN est un langage très très simple, puisqu'il y a 4 lettres et des mots de 3 lettres. Et avec tout ça, on fait la vie.
Donc des triplets qui sont des nucléotides.
Oui, les nucléotides. 3 nucléotides, c'est-à-dire 3 lettres, forment un mot qu'on appelle le triplet.
Et donc vous précisez que ça se lit de gauche à droite, c'est ça?
Ça se lit dans un sens déterminé, qui est le sens qu'on appelle de 5' en 3', etc. Ça, c'est les spécialistes qui disent ça. Il y a un sens de lecture, oui.
Et qui constitue donc des phrases
Oui, alors bon, là on est un petit peu dans le symbole, on est dans la métaphore. Lorsqu'on parle de la vie, on fait souvent beaucoup de métaphores. C'est vrai que le fait de parler de lettres, de parler de mots et de parler de phrases, eh bien, c'est une métaphore. La phrase, c'est ce qui va permettre, à partir du langage ADN, de fabriquer d'autres molécules qui ne seront pas construites n'importe comment, ce sont les protéines. Ces protéines seront construites d'après le message que leur donne le langage de l'ADN.
Et alors, pour donner une image de ce que ça représente, vous donnez l'exemple que voici, à savoir que les molécules d'ADN d'une personne mises bout à bout couvriraient plus de 1000 fois la distance de la Terre au Soleil.
Oui. Oui, on peut faire ce genre de calcul qui est toujours un petit peu époustouflant, je dirais. C'est vrai qu'on pense qu'il y a à peu près... Si on déroulait l'ADN de chacune de nos cellules, attention, il faudrait le dérouler parce qu'il est pelotonné dans nos cellules, on serait à une longueur entre 2 et 3 mètres. Dans chacune de nos cellules. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a 100 000 milliards de cellules dans le corps humain. Alors, si vous multipliez 100 000 milliards par 2 ou 3 mètres, ben, vous arrivez à un nombre de millions de kilomètres absolument fabuleux, qui est beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin que la distance de la Terre au Soleil.
Si vous le voulez bien, on va marquer une première pause, Claude Combes, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission, où nous parlerons des gènes, des générations, de l'évolution de l'espèce, de la sexualité aussi, qui est à la clé de l'évolution des espèces. A tout de suite.
Il est né en Grèce, mais il vit entre Athènes et Paris. Il a reçu en novembre 2007 le Grand Prix du roman décerné par l'Académie française et il est reçu dans le studio de Canal Académie par Elisabeth Antebi. Vassili Alexakis, le plus grec des écrivains français, dans l'émission Au fil des pages sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Claude Combes, à partir du livre Darwin, dessine-moi les hommes, que vous avez publié, Claude Combes, en 2006, aux éditions du Pommier. Et donc, nous dressons le panorama de l'évolution des espèces. Un bref panorama, parce que bien sûr, il nous faudrait plusieurs années, certainement, pour pouvoir en parler.
Le résumé de presque 4 milliards d'années.
Voilà, résumé de 4 milliards d'années en 45 minutes, c'est bien sûr très court. Dans cette deuxième partie, on va peut-être parler plus en détail des parasites. Vous êtes parasitologue,
oui, au départ,
et,
oui.
Et justement vous donnez quelques exemples assez extraordinaires de ces parasites qui vont finalement trouver un hôte et le faire évoluer l'hôte pour pouvoir lui-même, ce parasite, vivre et survivre.
Oui, le parasitisme est l'un des cas où l'on voit le mieux des espèces interagir. Bon, quand une souris se fait manger par un chat, c'est une interaction entre espèces. Mais ça ne dure pas tellement. Ça dure le temps que le chat poursuive la souris et puis que la souris se fasse digérer par le chat. Bien. Dans le cas du parasitisme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux organismes dont les génomes, c'est-à-dire les informations génétiques, sont différentes, qui sont au fond à des stades de l'évolution complètement différents, à des stades de complexité complètement différents, et qui vont vivre ensemble pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle l'interaction durable. Et cette interaction durable permet des choses tout à fait extraordinaires qu'on appelle la manipulation. C'est-à-dire que les parasites vont pouvoir manipuler l'expression des gènes de leur hôte à leur avantage. Et ça, c'est le résultat de la sélection naturelle au cours de l'évolution. Les parasites ont appris, si on peut dire, à fabriquer des molécules qui vont avoir pour cible certains gènes ou certaines molécules ou certaines cellules de leur hôte, et ça va modifier quelque chose. Ça va modifier, par exemple, le comportement. Ça, c'est le plus intéressant, d'ailleurs. Dans certains cas, ça modifie la morphologie. Par exemple, la trichine, qui est un parasite de l'homme, est capable de faire apparaître des vaisseaux sanguins nouveaux dans les muscles. parce que ça lui permet de se nourrir. Bon, mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les modifications des comportements. Lorsqu'un paralyte modifie le comportement de son hôte dans un sens qui lui est favorable. Alors, un exemple qu'on peut citer, c'est le cas des toxoplasmes. Les toxoplasmes, ce sont des parasites qui ont un cycle compliqué, ce qui est très fréquent chez les parasites. Ils vont, disons, en simplifiant un petit peu, du rat au chat et du chat au rat. Et lorsque le parasite est chez le rat, ce parasite n'a d'avenir que si le rat en question se fait manger par un chat. Alors, bien sûr, ça peut arriver par hasard. Mais ce qui est remarquable, c'est que le parasite, toujours par sélection naturelle, a trouvé le moyen de favoriser, d'augmenter la probabilité que le rat dans lequel il se trouve se fasse effectivement manger par un chat.
Alors, qu'est-ce qui cause ? Rendre le rat suicidaire, en quelque sorte.
Voilà, il rend le rat suicidaire, c'est le mot qu'on emploie. Il le rend audacieux. Disons qu'un rat normal, quand il voit ou quand il entend venir un chat, bah, il essaie de sauver sa peau. Eh bien, le rat qui porte les toxoplasmes, il ne fait pas ça. Disons, en caricature un petit peu, il va voir ce que c'est, le chat. Il va se mettre sous ses moustaches. Alors, évidemment, il se fait manger et le parasite a réussi son coup. Et ça se passe parce que le parasite, il gagne le cerveau du rat. Il va se mettre carrément à l'intérieur des cellules, nerveuses du rat. Et il modifie, alors on ne sait pas exactement d'ailleurs pour l'instant comment il fait, mais il fabrique à coup sûr une molécule, peut-être plusieurs, qui ont une influence sur les neurones, sur les cellules nerveuses, avec pour résultat que le rat devient suicidaire, devient audacieux.
Alors vous avez aussi un autre exemple, mais qui la finalité est la même, c'est pour les fourmis. Pareil, oui. un parasite qui va se loger dans le système nerveux d'une fourmi.
Oui, souvent quand les parasites veulent modifier le comportement de leur hôte, ils passent souvent par le système nerveux, par le cerveau. Dans ce cas-là, c'est un parasite qui doit passer, parce que sinon il meurt, il doit passer de la fourmi dans laquelle il se trouve au mouton. Bon, les moutons ne mangent pas tellement de fourmis, enfin il ne les cherche pas. Alors ce que fait le parasite, il va se loger dans le cerveau de la fourmi, et la fourmi à ce moment-là acquiert un comportement également suicidaire. Elle monte à un brin d'herbe, et elle attend, là aussi il faut mettre des guillemets, hein, oui. Et elle attend que le mouton, en mangeant le brin d'herbe, avale la fourmi. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que si supposons que ça se passe aujourd'hui, ce matin une fourmi est montée sur son brin d'herbe, et il n'y a pas de mouton qui soit passé. Ben, la fourmi, si elle reste là sur le brin d'herbe, elle va se dessécher.
Elle dessèche. Hein.
Voilà. Eh bien non. Puisqu'elle n'a pas été mangée ce matin par un mouton, dans la journée, elle va redescendre et elle va vaquer aux travaux de la fourmilière comme n'importe quelle autre fourmi. Et demain matin, elle remontera sur son brin d'herbe en espérant qu'elle se fera manger. Tout ça, quand je dis espérer, attention, c'est le parasite qui espère et c'est pas la fourmi.
Et ces parasites, finalement, ce sont des êtres excessivement compliqués, complexes, qui sont très très vieux ou au contraire qui sont très récents dans
Écoutez, là je crois que c'est pas une question d'ancienneté, parce qu'on pourrait parler de bactéries aussi qui font ça. Les bactéries, c'est un petit peu Lucas dont nous parlions tout à l'heure. Hein. C'est des êtres qui sont quand même à la fois unicellulaires et sont même des cellules relativement primitives. Eh bien, il y a des bactéries qui sont capables de faire changer, par exemple, leur hôte de sexe, parce que ça les arrange. Oui, il y a des bactéries qui sont chez des cloportes, par exemple. Et pour des raisons du cycle de ces bactéries, quand elles sont dans un mâle, elles ne vont pas se transmettre. Quand elles sont dans une femelle, elles vont se transmettre par les ovules. Eh bien, quand elles sont dans un mâle, elles transforment le mâle en femelle. Le mâle va faire des ovules, il va devenir une femelle fonctionnelle. Et le tour est joué. Donc, ça peut se passer chez des bactéries, ça peut se passer chez des unicellulaires, comme le toxoplasme dont nous parlions tout à l'heure, et ça peut se passer chez des organismes, des parasites beaucoup plus élevés en organisation, comme celui qui cause le changement de comportement de la fourmi.
En préparant cette émission, vous m'indiquiez que justement le toxoplasme, il y a 50% de la population qui l'a, ce toxoplasme. Alors qu'est-ce que ça provoque chez l'homme ?
Alors voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très récent dans les découvertes de la parasitologie. J'ai dit tout à l'heure, le toxoplasme, il va du rat au chat et du chat au rat. Bon, ça c'est ce qui est, disons, fondamental. Mais il va également chez d'autres mammifères. Il peut infecter d'autres mammifères et l'homme peut être infecté en tant que mammifère. Et lorsque, par exemple, on mange de la viande contaminée, de la viande crue contaminée, on peut être appelé à toxoplasmose. Au point qu'effectivement, dans la population française, il y a à peu près 50% des personnes qui sont parasitées et parasitées sans savoir. Mais le parasite, il fait comme chez le rat, c'est-à-dire qu'il va se loger dans notre cerveau. Et nous avons, si nous sommes parasités, si vous êtes parasité, si je suis parasité par les toxoplasmes, nous avons des millions de petits kystes qui sont dormants, qui ne font pas tellement de mal, mais qui sont dans notre cerveau. Et on a découvert récemment que, en fait, chez l'homme, comme chez le rat, il semble bien y avoir des modifications de comportement. Alors, je vous citerai un exemple, un résultat récent qui a été obtenu par des chercheurs tchèques, c'est que les porteurs de toxoplasme ont en moyenne 2,6 fois plus d'accidents de voiture dans la circulation que les non-porteurs. Pourquoi ? Eh bien parce que probablement, comme les rats tout à l'heure qui devenaient audacieux, eh bien ces hommes porteurs de hommes ou femmes porteurs de toxoplasme deviennent trop audacieux, y compris quand ils conduisent.
Et vous parlez également dans votre livre de troubles de l'émotivité ou de confiance en soi.
Voilà. Il y a souvent les gens qui sont, je dirais, un petit peu agités, un petit peu nerveux, un petit peu fébriles, un petit peu audacieux. Eh bien, c'est à la fois une qualité et un défaut, on peut dire. Mais souvent, le toxoplasme est derrière.
Et il faut apprendre à vivre avec, puisqu'il n'y a pas de médicaments pour le moment pour traiter ces toxoplasmes.
Oui, pour l'instant, d'ailleurs, on ne s'est pas vraiment intéressé au problème. Il n'y a pas eu de recherche très, très poussée pour se débarrasser des toxoplasmes.
Et ça me permet de citer votre livre. Et vous écrivez que Dawkins écrit « Une vie que pour que tes gènes survivent, les hommes ne sont que des outils obéissants entre les mains d'une molécule insolente ». Là, pour le coup, ça correspond tout à fait à ce que vous avez expliqué.
Oui, c'est la position de Richard Dawkins qui n'est pas celle, il faut bien le dire, de tous les évolutionnistes. Ce n'est pas la position de tout le monde. C'est une position qui est jugée un peu trop rigide, parce que finalement, ça nous démotive. Au fond, si nous ne sommes que nos gènes, fini l'humanisme, fini la réflexion de l'homme sur lui-même, si nous ne sommes que nos gènes. Alors ça, c'est la position de Richard Dawkins. Bon, il ne faut peut-être pas la pousser trop loin, et c'est un sujet de discussion que je discute d'ailleurs dans le livre.
Alors, si nous poursuivons sur la sélection naturelle, vous donnez une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze à certaines espèces qui ont trouvé des subterfuges pour survivre, tout simplement, notamment pour s'alimenter. Vous parlez d'une araignée du Brésil, vous allez pouvoir nous en parler. Également d'un poisson qui garde la gueule ouverte avec un fanal lumineux pour attirer les petites proies. Et puis également une plante, on parle beaucoup là, de la faune, mais il y a également la flore. Une plante, on dit le népenthe.
Le Nepenthes.
Le Nepenthes, oui. Qui est une plante carnivore. Mm-hmm. Alors, par quel animal ou végétal voulez-vous commencer ?
Voilà, ces trois exemples, je les ai choisis parmi des milliers possibles. Je crois que lorsqu'on étudie l'évolution, on se trouve confronté à cette sélection naturelle qui est la base même de l'évolution, qui, dans une diversité, qui est une diversité liée aux mutations de l'ADN, dont nous parlions tout à l'heure, dans cette diversité, la sélection, c'est-à-dire au fond le milieu, fait des choix. Je dis par exemple, dans une population de lapins, s'il y en a qui ont les pattes un petit peu plus longues, eh bien peut-être ils vont statistiquement échapper aux renards, dont les gènes qui déterminent les pattes plus longues vont être sélectionnés. Et alors, ça aboutit à ce qu'on appelle l'adaptation. Et les adaptations, eh bien je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire le mot. Il y en a qui sont des merveilles, qui sont des choses extraordinaires. Et lorsque j'explique à Yin ce que c'est que la sélection naturelle et l'adaptation, ben je me suis laissé aller effectivement à faire une sorte de podium d'adaptation. Mais je dis bien, j'aurais pu en choisir d'autres. Celui par exemple du Nepenthes, c'est extraordinaire, c'est une plante qui attrape des insectes. Alors déjà, une plante qui attrape des insectes, c'est pas mal. Il y a des feuilles qui sont transformées en une urne, au fond de l'urne, il y a du liquide, et si l'insecte vient se poser sur le bord de l'urne, s'il tombe au fond, la plante va le digérer. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que à l'endroit où l'insecte risque de se poser, il y a un endroit qui est glissant. C'est-à-dire que l'insecte se pose là-dessus et, je n'hésite pas à dire, il se casse la figure et il tombe au fond. Alors là, je dis quand même, émerveillons-nous devant l'évolution et l'adaptation.
Également, donc, vous parlez d'une araignée du Brésil qui va adapter sa toile en fonction du jour et de la nuit.
Voilà, ça c'est des araignées un petit peu particulières qui refont leur toile tous les jours. Et alors, elles font une toile différente suivant le type de proie qui est disponible. Si ce sont des petits insectes, elles font des toiles avec des mailles très fines. Mais que survienne un moment où il y a des insectes plus gros, par exemple des termites volants, à ce moment-là, elles font des toiles différentes avec c'est plus la même toile, c'est une toile qui est adaptée à la proie que l'on veut capturer. Et puis, oui, je cite aussi le poisson, ça c'est assez extraordinaire. C'est un poisson qui est au fond de l'océan, dans les profondeurs, un endroit où il n'y a pas du tout de lumière. Alors, en fait, c'est un prédateur, mais qui ne chasse pas. Il chasse à l'affût. Et il a la gueule ouverte. Et au fond de la gorge, il y a un petit fanal lumineux. Alors, d'autres organismes qui vivent dans ce milieu, par exemple des petits poissons, ils sont attirés par ces petites lumières et ils rentrent dans la bouche. À ce moment-là, évidemment, dans la bouche du prédateur, celui-ci n'a plus qu'à fermer la bouche. C'est extraordinaire quand même, le petit fanal lumineux pour attirer un prédateur. Moi, c'est des choses qui m'émerveillent toujours. Vous voyez, j'ai étudié l'évolution depuis pas mal de temps, mais chaque fois, je trouve que c'est formidable.
Il y a une question que vous posiez et que je vous repose de ce fait. Est-ce que l'évolution a été graduelle ou est-ce qu'elle était par à-coup ? Par exemple, la trompe de l'éléphant, est-ce qu'elle est venue petit à petit ou est-ce que, dès le début, l'éléphant avait une trompe ?
Alors, il y a les deux, je dirais. C'est-à-dire que, au départ, l'idée de Darwin, elle est entièrement fondée sur ce qu'on appelle le gradualisme. Des petits changements, il ne parlait pas de mutations à l'époque, mais enfin, il disait des petits changements héréditaires, ça correspond à nos mutations d'aujourd'hui, les mutations de l'ADN. Et il disait, eh bien, à force de faire des petits changements comme ça, les organismes changent. Et par exemple, l'éléphant, il a eu la trompe d'abord, pas très long, et puis de plus en plus long, etc., toujours par sélection naturelle. Alors, aujourd'hui, cette forme de l'évolution reste toujours valable. Cette forme de la sélection naturelle reste toujours vraie. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des gènes qu'on appelle, on leur donne différents noms, des gènes architectes, moi je les appelle des gènes chefs d'orchestre dans le livre, qui sont capables de commander des centaines ou des milliers d'autres gènes. Et on sait maintenant que les mutations de ces gènes-là, de ces gènes architectes, ont des conséquences beaucoup plus grandes que les mutations, dirais-je, d'un gène ordinaire.
C'est les fameux gènes Hox.
Voilà, les fameux gènes Hox.
Alors, dans votre livre, vous faites référence, par contre, à une espèce qui ne semble pas avoir beaucoup évolué, qu'on pensait disparue il y a 70 millions d'années,
oui.
Un poisson.
Le Coelacanthe.
Voilà, qui est un poisson fossile, c'est ça ? On l'appelle espèce fossile ?
Oui, on l'appelle espèce fossile, ce qui est peut-être pas le... On l'appelle espèce fossile parce qu'on l'a d'abord connu à l'état fossile. On connaissait les Coelacanthes et on disait qu'ils ont disparu depuis 200 millions d'années. Et puis tout d'un coup, on les trouve vivants. On les a trouvés autour des îles Comores, et puis depuis peu, on a trouvé une autre espèce en Indonésie.
C'est incroyable quand même. Où étaient-ils ces poissons pendant tout ce temps ?
Alors, où étaient-ils ? Voilà, ça intrigue beaucoup les gens qui ne sont pas très au courant de toutes ces possibilités qu'il y a dans l'évolution. Au fond, le Coelacanthe, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup changé en 200 millions d'années.
C'est un poisson assez impressionnant d'ailleurs.
C'est un poisson qui est important d'ailleurs, parce qu'il est d'une certaine manière apparenté aux premiers vertébrés qui ont eu des pattes. Je ne dis pas qu'il a des pattes, mais il est apparenté aux premiers vertébrés qui sont devenus ensuite des tétrapodes, c'est-à-dire des animaux à quatre pattes. Donc il est particulièrement intéressant. Alors pourquoi on ne l'a pas trouvé pendant 200 millions d'années ? Eh bien, probablement parce qu'il n'a pas laissé de fossiles, mais il a existé. Il ne faut pas croire qu'il n'a pas existé. Il a existé, et simplement, il vit dans un milieu très particulier. Il vit dans des sortes de grottes sous-marines, un milieu qui était probablement peu favorable à la fossilisation. Ou alors, les fossiles existent, mais dans une région du monde qu'on n'a pas explorée.
Alors, je vous propose de marquer une seconde courte pause, Claude Combe, et on se retrouve tout de suite après pour parler peut-être plus en détail de ces animaux qui étaient tout petits, des éléphants de 80 cm. Et tout de suite.
Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Claude Combe, à partir de son livre Darwin, dessine-moi les hommes, publié aux éditions du Pommier en 2006. Dans cette dernière partie, Claude Combe, nous allons nous arrêter pendant un temps en Sicile, en Crète, à Chypre, où il y a 10 000 ans de cela, vivaient des espèces que l'on connaît encore aujourd'hui, hein, des éléphants, des rhinocéros, des cerfs, mais alors qu'il y avait une particularité, c'était d'être extrêmement petit.
Oui, c'est ce que l'on appelle le nanisme insulaire, qui d'ailleurs pose un problème, ce n'est pas forcément facile à expliquer. Ce qu'on sait, c'est que lorsque des animaux immigrent dans une île, leur taille souvent est soumise à la sélection naturelle d'une manière qui est contradictoire suivant qu'ils sont petits ou qu'ils sont grands. C'est-à-dire que les animaux petits ont tendance à évoluer en devenant plus grands quand ils sont sur une île. Et les animaux plutôt de grande taille ont tendance à évoluer en devenant plus petits. Et ce qui est remarquable, c'est que dans les îles de la Méditerranée, que vous citez en particulier en Crète, il y a eu des animaux qui ont dû venir probablement d'Afrique ou peut-être d'Europe, qui sont venus à la nage ou qui sont venus sur des radeaux flottants, qui se sont établis. Et au bout de quelques temps, eh bien, ils sont devenus, quand ils étaient gros, ils sont devenus nains. Les plus extraordinaires étant des éléphants nains, qui faisaient 80 cm de haut, des rhinocéros nains, des cerfs nains. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, lorsque au néolithique, les hommes ont inventé les premiers bateaux, et qu'ils ont débarqué dans ces îles, eh bien, ces jolies bêtes qui auraient fait aujourd'hui l'île des enfants. Imaginez, on a aujourd'hui dans les parcs zoologiques, on a des chèvres naines. Imaginez qu'il y ait pour amuser les enfants des éléphants nains et des rhinocéros nains. Ça serait formidable. Mais alors, les premiers hommes, là, les hommes du néolithique.
C'était des proies faciles.
Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, certainement, quand ils ont débarqué. Au bout de quelques repas, bien fait, il n'y avait plus d'éléphants et de rhinocéros nains.
Mais pourquoi ce nanisme et parallèlement, pourquoi les petits animaux, parce que vous me l'expliquez, pourquoi les petits animaux tels que les rats, eux, en revanche, avaient tendance à devenir beaucoup plus gros?
Alors, je vais vous répondre que les spécialistes ont quelques explications à proposer, mais qui sont très spéculatives, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, pourquoi, par exemple, sont-ils plus petits? Pourquoi les gros animaux sont-ils plus petits? Bon, s'ils sont plus petits, ils ont probablement ce qu'on appelle des temps de génération plus courts. C'est-à-dire que la maturité sexuelle est atteinte plus vite. Donc, ça pourrait être une manière de résister à des pressions de l'environnement. Mais c'est une explication qui est...
C'est pas parce que le territoire, par exemple, était plus petit.
Oui, c'est parce que le territoire était plus petit, mais à ce moment-là, on se demande pourquoi les petits animaux sont devenus plus gros. En matière d'évolution, l'évolution est une science difficile parce que, bon, on a beaucoup d'arguments avec les fossiles, avec aujourd'hui les analyses de l'ADN des animaux actuels. On a beaucoup d'arguments pour reconstruire l'évolution. Mais quand même, comme quelquefois les auditeurs d'une conférence disent, ben, on n'y était pas. On n'y était pas. On est un petit peu comme un commissaire enquêteur qui enquête sur un délit qu'il n'a pas vu commettre. Alors, il accumule des arguments, il accumule ce qu'il appelle des preuves. Mais il n'y était pas. Bon, l'évolutionniste, lui, il n'y était pas au moment où tout cela s'est produit.
Vous parlez, et à juste titre, de la sexualité qui permet un brassage génétique et de ce fait une évolution de l'espèce. Finalement, vous répondez à la question est-ce que la sexualité était nécessaire? Mais alors, la question de Yin, pourquoi n'y a-t-il pas 3 ou 4 sexes?
Oui, alors c'est déjà difficile d'expliquer pourquoi il y en a 2. Hein, alors, pourquoi il y en a-t-il 2? L'idée est que pour qu'il y ait sélection naturelle, la sélection naturelle, disons, ne peut s'exercer que s'il y a une diversité. Il va y avoir, au fond, les gagnants et les perdants, statistiquement parlant. La diversité naît principalement des mutations, c'est-à-dire de changements de l'ADN qui se font au hasard. Il y a des mutations qui ne sont pas dirigées dans une direction particulière. L'idée de Darwin, c'est que... Enfin, Darwin ne connaissait pas les gènes, mais enfin, tout se fait au hasard. Et la sexualité, elle brasse les informations génétiques. Donc, elle apporte un deuxième palier, un deuxième niveau de diversité. Au fond, elle brasse la diversité. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un enfant, il n'est ni son père ni sa mère. Et chaque être vivant qui naît, nous avons tellement aujourd'hui d'informations génétiques qu'on peut dire que chaque être vivant qui naît est une nouveauté dans l'histoire de l'univers. Un enfant qui naît n'a jamais existé tel qu'il est à cause de la double diversité née de la mutation et du brassage lié à la sexualité. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plusieurs sexes? Eh bien, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Je crois que le scientifique, de temps en temps, il doit dire on ne sait pas. J'évoque le problème dans le livre en disant que la question mérite d'être posée. Pourquoi n'y a-t-il pas, après tout, plusieurs sexes? On ne sait pas.
Et Yin vous pose la question, est-ce qu'on peut féconder 2 gamètes de même sexe? Et là, vous faites référence à des études récentes.
Alors voilà, maintenant, attention, les choses sont en train de beaucoup changer avec ce qu'on appelle les biotechnologies, les biotechniques, où l'on peut, on a su maintenant faire effectivement fusionner. Parce que il faut bien dire que les gamètes dont vous parlez ne possèdent que la moitié de l'information génétique en termes de quantité d'une cellule normale. Et c'est la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle qui va rétablir la quantité d'informations génétiques. Alors, on peut aujourd'hui faire fusionner, au moins au niveau des femelles, des gamètes de même sexe, et ça marche.
Chez les souris.
Ça marche chez la souris.
Et justement, vous dites peut-être un jour chez l'homme.
Oui, alors j'évoque évidemment dans le livre le problème de l'homme génétiquement modifié, de tout ce qu'on va pouvoir faire avec les manipulations génétiques chez l'homme. Alors, ça sera d'ailleurs quelque chose de formidable si on le fait bien, si on le fait dans un but, je dirais, éthique. Si, par exemple, on arrive à supprimer des gènes de maladies génétiques, des choses comme ça. Maintenant, si on s'amuse à fusionner des ovules pour qu'un enfant soit le fils de 2 femmes, là, c'est un bricolage, disons, qui n'est plus celui de l'évolution, c'est un bricolage qui peut être mal intentionné.
Mais pourtant, les chromosomes marchent par paire et il faut parfois obligatoirement une information venant du mâle et une information venant de la femelle.
Oui, mais dans un ovule femelle, il y a une demi-information. Dans un autre ovule femelle, il y a une demi-information. Si vous les réunissez, vous avez l'information complète.
D'accord, qui peut finalement remplacer tout à fait...
Voilà, chez la souris, ça marche, disons.
Justement, parlons de l'homme. Un de vos chapitres, la question est posée ainsi, à savoir, l'homme est-il le but ultime de l'évolution? Est-ce que nous sommes les êtres parfaits de l'évolution?
Voilà, pour le biologiste, pour le scientifique, la réponse est non. La réponse est, il y a dans l'évolution une énorme quantité de causes qui ne sont pas intentionnelles. Il y a ce qu'on appelle des séries causales. Il s'est produit beaucoup de choses qui se sont produites, on dit par hasard. Alors le hasard, pour un scientifique, le hasard, ça n'existe pas forcément. Un scientifique a tendance à être déterministe, c'est-à-dire il y a une cause derrière tout effet. Mais la cause n'est pas synonyme d'intention. Quand par exemple, il y a 65 millions d'années, il y a une énorme météorite qui a frappé la Terre et qui a fait disparaître, semble-t-il, les dinosaures, ou peut-être parce qu'il y a eu des éruptions volcaniques à ce moment-là. Ceci, on peut dire, ça aurait pu ne pas se produire. Comme dit le biologiste américain Gould, si la météorite était passée un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, elle n'aurait pas percuté la Terre, donc peut-être les dinosaures n'auraient pas disparu et nous ne serions pas là pour en parler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hasard. En fait, il y avait une raison pour laquelle la météorite était là. Ça remonte peut-être à la formation du système solaire. Alors, il y a des quantités de causes comme ça qui ont fait que telle espèce a survécu, que telle autre espèce a disparu. Mais il n'y a pas, pour un biologiste, d'intention derrière cela. Et le fait que l'homme, à un certain moment, soit apparu, pour un biologiste, eh bien, il est apparu par sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a eu des mutations, il y a eu des changements, et il y a eu une sélection qui a fait qu'en particulier, notre cerveau a été probablement le motif principal de la sélection naturelle dans l'évolution des primates. Parce que les hommes, enfin les primates qui étaient les plus intelligents, mettons des guillemets, mais enfin, qui étaient les plus aptes à se défendre, les plus aptes à savoir trouver le gibier, les plus aptes au contraire à fuir les prédateurs. Eh bien, c'est cela parce qu'ils avaient effectivement un cerveau qui leur permettait d'aller plus loin, en particulier peut-être qui leur permettait de voir le temps, de voir le futur, de savoir que les choses allaient se produire ou ne pas se produire. Eh bien, c'est ça probablement qui a permis que l'homme émerge. Et là derrière, je ne mets pas d'intention. Après, ça n'empêche pas que on peut avoir une position différente et dire oui, il y avait une intention là-derrière. Le biologiste, lui, considère que l'évolution s'est faite sans intention. Il n'a pas besoin de l'intention, voilà.
Est-ce que le biologiste peut se projeter dans les millions d'années qui vont suivre, en dehors de toute question, je ne sais pas moi, de climat ou de météorite qui pourrait entre-temps venir sur Terre et ratisser de nouveau toute la Terre? Est-ce qu'on peut se projeter, par exemple, quelle est la prochaine étape, tout simplement,
après
l'homme?
Alors, je vais vous décevoir parce que je vais vous répondre non. Alors, je vais vous répondre non parce que c'est déjà assez difficile de reconstituer le passé. C'est pas facile. Et là, vous me dites de reconstituer un avenir qui n'a pas existé. Et ensuite, ce n'est pas facile, ce n'est pas faisable, justement parce qu'il n'y a pas d'intention. S'il y avait une ligne directrice, s'il y avait quelque chose qu'on puisse définir comme un but, à ce moment-là, on pourrait prévoir. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un joueur de football qui tape dans le ballon, on peut prévoir la trajectoire du ballon, parce qu'il a essayé de l'envoyer dans une certaine direction. Dans le cas de l'évolution, il va y avoir des quantités de causes qui vont faire que les choses vont changer, c'est sûr. Vous pouvez avoir, par exemple, un virus qui va apparaître et qui va détruire une partie de l'humanité et qui va contribuer, pourquoi pas, à son évolution. Ou peut-être même, l'espèce humaine va-t-elle disparaître et d'autres espèces vont évoluer. Mais le nombre de causes possibles est tellement immense. Il y a une infinité de causes, on ne peut pas les maîtriser. C'est l'histoire, vous savez, de ce qu'on appelle l'effet papillon en météorologie. Hein, vous avez un papillon qui bat des ailes et peut-être 3 ans plus tard, il y aura une tempête à New York. Parce que ce petit quelque chose a eu, finalement, de proche en proche, des conséquences immenses. C'est la même chose dans l'évolution. Toute l'évolution a été faite de petites choses qui étaient inattendues, qui ont abouti à ce qu'on appelle parfois une finalité, mais c'est une finalité a posteriori. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas dire que l'homme, c'est simplement un animal comme les autres. Non, il n'est pas comme les autres. C'est un animal, si on veut, parce qu'il est bon, il appartient au règne des animaux, au sens large. Mais enfin, il n'est pas comme les autres. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de réfléchir. Comme a dit un de mes collègues, c'est nous qui écrivons sur les mouches, c'est pas les mouches qui écrivent sur nous. Donc, oui, nous sommes différents, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait un but. Et par conséquent, si on ne définit pas de but, c'est difficile de dire qu'il va y avoir un but prochain. Alors, si vous me dites, est-ce que l'espèce humaine va continuer à évoluer? Est-ce qu'elle va disparaître? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, disons que je suis un petit peu inquiet devant certains aspects aujourd'hui de l'évolution de l'homme, en particulier dans sa démographie. On va être trop nombreux sur une planète qui est limitée, avec des ressources limitées. Il va y avoir peut-être des épidémies. On s'est aperçu dans les dernières années que nous restions vulnérables. Nous parlions tout à l'heure des toxoplasmes. Mais attention, hein. Il y a le SRAS, le H5N1, etc. Tout ça, on ne s'y attendait pas. Le sida, personne ne s'y attendait. Qui aurait pensé au sida il y a 50 ans? Personne. Alors, il peut y avoir des choses qui vont apparaître. Et effectivement, ce n'est pas parce que la science a fait beaucoup de progrès que nous sommes armés contre tout.
Et pour parler de l'évolution de l'homme, mais même physique, par exemple, est-ce que, je ne sais pas, moi, par exemple, l'appendice petit à petit va disparaître, par exemple, je ne sais pas, ou est-ce que nos amygdales vont disparaître, on n'en a plus besoin spécialement ou...
Alors, là, je vous renvoie à la sélection naturelle. Supposons qu'il y ait dans la population des gens qui ont les amygdales plus petites que les autres, ou l'appendice plus petit que les autres. Pour qu'ils soient sélectionnés, il faut que ces gens aux amygdales plus petites et à l'appendice plus petite, fassent plus d'enfants que les autres. Alors, si on démontre qu'effectivement, parce qu'on a les amygdales plus petites, on va faire statistiquement plus d'enfants, c'est vrai que les gènes qui déterminent la taille des amygdales, des petites amygdales, vont être sélectionnés. Là, je doute beaucoup. Je doute beaucoup. Par contre, ce qui va peut-être changer, la taille de la population est en train d'augmenter, mais ce n'est pas une question de sélection. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement une sélection... par exemple sexuelle, que les femmes choisissent systématiquement les hommes les plus grands et que les hommes choisissent systématiquement les femmes les plus grandes. Non. Par contre, c'est vrai qu'on est de mieux en mieux nourris et qu'avec les mêmes gènes, on arrive à obtenir aujourd'hui des individus qui sont de taille un peu plus grande qu'il y a 100 ou 200 ans.
Et par exemple, sur la taille, est-ce qu'il y a une taille limite? Est-ce qu'on devine qu'il y a une taille limite à laquelle on grandit plus?
Il doit y avoir une taille limite, de la même manière qu'il y a un temps limite pour courir le 100 mètres, hein. On ne courra jamais le 100 mètres en 7 ou 8 secondes, et je pense qu'il n'y aura jamais des hommes de 3 ou 4 mètres.
J'avais une dernière question à vous poser. Vous avez fait des conférences, de nombreuses conférences, et notamment avec un public de lycéens ou même d'étudiants. Quelles sont les questions qui vous sont le plus souvent posées au regard de ce livre ou des conférences qui ont attrait à l'évolution?
Alors, il y a actuellement beaucoup de débats qui agitent le grand public intéressé par l'évolution. C'est le problème de chercher justement ce dont nous parlions il y a un instant, c'est-à-dire un but, de chercher une raison. Et alors, il y a des courants, et il y a chaque fois dans la salle, quand je fais une conférence, il y a chaque fois une ou deux personnes qui me disent « Et Dieu dans tout ça ?» Alors, la réponse que je leur fais, c'est de dire « Attention, ne mélangeons pas les genres. Ne mélangeons pas les genres. Le biologiste, le scientifique, il est là pour voir comment ça se passe, donner des explications, par exemple, comme on explique la loi de la gravité, un objet qui tombe parce qu'il y a une certaine loi de la gravité. On explique les choses. On ne va pas chercher des problèmes de type théologique ou philosophique. C'est un métier différent. Alors, j'avoue qu'en traitant de l'évolution, on pose souvent à la fin des questions de ce genre-là. Il y a des personnes qui sont influencées par ce qu'on appelle aujourd'hui le créationnisme, des personnes qui sont influencées par ce qu'on appelle en Amérique l'intelligent design, le dessin intelligent. Et il faut bien dire que ces choses-là arrivent un petit peu en France. Alors, moi je ne suis pas du tout contre le fait qu'elles arrivent. Par contre, il y a un domaine où il faut être très prudent, c'est que ça ne doit pas passer dans l'enseignement en France. Vous me donnez l'occasion de le dire.
Vous dites ça parce que justement en Pologne ou en Italie, je crois que...
Voilà, ça ne doit pas passer dans l'enseignement. L'enseignement, c'est un enseignement scientifique. Après, évidemment, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais c'est une chose totalement différente. Et quand je fais des conférences, quand un scientifique est différent des conférences, il le fait en tant que scientifique. Et il parle de faits scientifiques, en disant parfois d'ailleurs que les faits scientifiques ne sont pas toujours totalement établis. Et dans le cas de l'évolution, on parlait des sélacanthes tout à l'heure, je vous ai donné une explication sur pourquoi n'ont-ils pas évolué. Alors après tout, cette explication, peut-être n'existe-t-il d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Il faut aussi avoir cette modestie.
Eh bien, je vous remercie, Claude Combes, de nous avoir donné ces précisions. Donc, je rappelle une nouvelle fois le titre de votre ouvrage, Darwin, dessine-moi les hommes, publié aux éditions du Pommier en 2006. Et je précise à nos auditeurs que vous êtes membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Université de Perpignan, spécialiste en parasitologie. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, j'espère à bientôt pour un nouveau livre, peut-être que vous allez publier prochainement.
Oui, pourquoi pas. Oui, il est dans ma tête.
On peut en savoir plus ou pas? Ça viendra peut-être plus tard.
Il va certainement concerner un des grands problèmes de l'évolution qui est la compétition. la compétition qui commence avec certainement les premières cellules. On parlait tout à l'heure de Lucas. Il y a eu certainement des compétitions entre plusieurs Lucas. Et puis aujourd'hui, il y a des compétitions dans l'humanité.
Eh bien, merci Claude Combe. À bientôt. Au revoir.